un humaniste chrétien. D'après ce que l'on sait, Carole n'est pas enthousiasmée par l'idée de se consacrer aux études. Un professeur, le père Rosicky, lui propose de rédiger une thèse de doctorat sur la philosophie et l'éthique chrétienne. En 1951, Wojtyla doit quitter Saint-Florian et ses jeunes. Il souhaite poursuivre son travail pastoral, mais Basiak lui impose de lui demander son autorisation personnelle pour entreprendre des activités pastorales autres que ses études. Wojtyla n'est pas prêtre à s'opposer à la volonté de son évêque. En dépit des difficultés, Monseigneur Basiak poursuit le projet de Sapieha sur Wojtyla. Il doit étudier pour devenir professeur d'éthique sociale. Dans les années 50, Carole se consacre aux études, mais pas seulement à des fins universitaires. D'ailleurs, il possède une culture vaste, éclectique, capable de s'orienter vers différentes disciplines. Ses ouvrages, qui ne relèvent pas du domaine universitaire, en disent long sur les centres d'intérêt de leur auteur. Sa culture universelle et ses expériences pastorales l'amènent à devenir un humaniste chrétien dans la Pologne communiste. Karol Wojtyla est un intellectuel animé d'une très grande curiosité à l'égard du monde et de la lecture et avide de rencontres. Le substrat profond de sa vision du monde est pétri de prières, de liturgie et de familiarité avec la Bible, qui façonnent sa spiritualité et sa culture et apparaissent comme des références essentielles. On sent également qu'il a été éduqué aux grands classiques romantiques de la littérature polonaise, d'abord par son père, puis lors de ses brillantes études à Wadowice, ainsi qu'à travers sa passion pour la philologie polonaise et le théâtre. Dès son enfance, les romantiques du XIXe siècle comme Mickiewicz, Krasinski, Slowacki ou Norvid sont des auteurs de référence pour Carole, à tel point qu'il connaît par cœur des passages entiers de leurs œuvres. Il puise chez eux, et plus particulièrement chez Norvid, l'auteur qu'il apprécie peut-être le plus. L'idée qu'il existe un lien entre culture et patrie qui soude en profondeur leur destin et leur identité. Norvid a un sens réaliste et catholique de la nation, tandis que la vision de Mickiewicz, avec tout son attrait, a reçu l'influence d'Andrzej Stowiański et, d'une certaine façon, l'héritage de Jakob Frank. De Norvid, soit dit en passant, le pape tire une maxime qu'il aime répéter et qui éclaire sa spiritualité. Non pas derrière soi-même avec la croix du Sauveur, mais derrière le Sauveur avec sa propre croix. Dans le discours qu'il prononce à l'UNESCO en 1979, Jean-Paul II affirmera que la culture représente une grande force pour une nation. Il existe une souveraineté fondamentale de la société qui se manifeste à travers la culture. Il s'agit d'une souveraineté qui permet en même temps à l'homme d'être souverain. Wojtyla est, par sa formation, un homme de culture qui connaît l'histoire, les classiques et la poésie de son pays. Plus tard, alors qu'il est déjà pape, on retrouvera un Wojtyla curieux de l'histoire des autres peuples. Les peuples fixent leur histoire dans des récits qu'ils consignent sous de multiples formes de documents, grâce auxquels se constitue la culture nationale. La langue forge elle aussi la nation, en même temps que l'histoire. En réalité, Jean-Paul II est peut-être le seul pape à avoir élaboré une théorie de la nation et de la culture, comme on le voit en lisant « Mémoire et identité », ouvrage publié en 2005, mais fruit des conversations du pape avec deux philosophes polonais, Joseph Tischner et Christophe Michalski, avec lesquels, à partir de 1993, il évoque le nazisme et le communisme. En 1974, alors qu'il est déjà cardinal, Wojtyla écrira un poème intitulé « En pensant patrie », dans lequel il médite sur le sort d'un pays privé de sa liberté. À quoi ressemblera son avenir ? La conscience polonaise dispose-t-elle de ressources qui lui permettront de résister à l'histoire ? L'histoire étale au-dessus de la lutte des consciences une strate d'événements. Dans cette strate étroite, les victoires et les défaites vibrent. L'histoire ne les recouvre pas, elle les fait même ressortir. L'histoire peut-elle aller à contre-courant des consciences ? Entretenir la culture signifie renforcer le courant des consciences afin de sortir de la fragilité de la Pologne des années 50. La foi et la culture constituent l'espace de liberté et d'indépendance d'une nation privée de sa liberté. Les forces spirituelles, même si elles semblent vaincues, recommencent à émerger avec force. Telle est la grande leçon à retenir des classiques polonais comme Mickiewicz qui écrit « La nation polonaise a été démembrée, rayée de la carte de l'Europe, jetée comme un chien errant sur le globe. En cherchant le mystère de son existence, cette nation marche vers le cœur de tous les mystères. Elle est animée d'une force spirituelle profonde. Le lyrisme du cardinal Wojtyla se poursuit par ces mots. Nous ne pouvons pas céder à la faiblesse. Le peuple est faible lorsqu'il accepte la défaite, lorsqu'il oublie sa mission, qui est de veiller jusqu'à ce que l'heure arrive. Les heures reviennent toujours sur le grand cadran de l'histoire. Telle est la liturgie des événements. » Karol Wojtyla a le culte de la poésie, à travers laquelle s'exprime sa méditation historico-religieuse et dans laquelle il trouve des raisons de résister moralement. Le premier obstacle à une étude complète de sa méditation poétique est qu'en général, le poète place sa personnalité au centre de son œuvre. Il en va autrement de Wojtyla. Sa poésie, en partie anonyme, il a écrit sous le pseudonyme d'Andrzej Javien et publié y compris après son élection comme pape, n'a pas reçu toute l'attention qu'elle méritait. La poésie constitue un aspect tout sauf secondaire chez cet humaniste polonais. Ce n'est pas un divertissement auquel s'adonne un ecclésiastique engagé ou un intellectuel romantique, mais une façon de méditer sur l'histoire, sur la Pologne, sur la foi et plus généralement sur l'humain. Le philosophe Giovanni Real, qui a étudié l'œuvre de Wojtyla, affirme dans la présentation de ses poèmes « Wojtyla a commencé par être poète et dramaturge avant de poursuivre son chemin comme philosophe et comme théologien. » Wojtyla réunit donc en lui les trois grandes composantes de la pensée et constitue pour cette raison cette figure emblématique d'homme qui parcourt toutes ses voies de diverses façons pour atteindre la vérité. L'incipit du parcours intellectuel de Karol est celui du poète et du dramaturge, en plus de celui de l'homme de foi. En tant que théologien ou philosophe, il ne crée pas un système, pas plus qu'il ne s'identifie à une méthode ou à une spécialité universitaire. Si on a beaucoup étudié la figure du pape, on s'est moins penché sur le poète ou sur la perspective de poète et de dramaturge qui caractérise Wojtyla. Une telle considération et une telle attention, durant son pontificat, pour le poète qu'il est, apparaîtront presque comme de la flatterie courtisane envers le pape, ou bien comme une vision réductrice ou sentimentale de sa pensée. Mais Wojtyla est un intellectuel complexe, un poète et un dramaturge qui, dans les années 50, a développé une culture philosophique dont il a déjà posé les prémices lors de ses études au séminaire, puis lors de ses études thomistes à Rome. Attiré par la mystique, il n'est pas un spécialiste qui accède à une vision plus large à travers une discipline. Rien à voir avec Joseph Ratzinger, à tel point que Giuseppe Alberigo, spécialiste de l'Église, disait avec ironie que les rapports entre Ratzinger et Wojtyla ressemblaient à ceux qui existent entre un professeur d'université allemand et un polonais, et il soulignait la solidité du premier par rapport au second. La théologie de Wojtyla, qui n'est pas systématique, est celle de l'évêque qui pense et qui prêche, mais aussi celle de celui qui se pose le problème de Dieu, dans tous les aspects de la vie et de la culture. Dans un passage du drame consacré à Frère Albert, à qui Wojtyla s'identifie beaucoup, on peut lire « Je continue à chercher, mais quoi? Peut-être ai-je suffisamment cherché. J'ai cherché parmi tant de vérités. Pourtant, ces choses ne peuvent mûrir qu'ainsi. Philosophie, art, la vérité est ce qui finit par remonter à la surface comme l'huile dans l'eau. Ainsi, la vie nous la dévoile, peu à peu, en partie, mais continuellement. De plus, elle est en nous, en chaque homme, et c'est justement là qu'elle est proche de la vie. Nous la portons en nous, elle est plus forte que notre faiblesse. Et il en va ainsi chez un, deux, cent hommes. Qu'est-ce que la vérité? Où se trouve-t-elle? La vie est faite d'hommes qu'elle parcourt longuement. » Étant poète, dramaturge, philosophe, théologien, amateur d'histoire et dévoreur de livres, il pourrait pratiquer un dilettantisme encyclopédique. Et pourtant, c'est un homme qui continue de chercher, comme il l'écrit, à travers ses études, ses lectures et ses rencontres, et qui se révèle être un humaniste chrétien.